Voilà, ça. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Che fa, aggredisce?
È passato forte, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Et bonjour, bienvenue dans Cinémascope cette semaine, encore vendredi 7 avril, pour parler de cinéma, évidemment des films qui sont projetés sur les salles albenaciennes et sud-ardéchoises et même privadoises, pourquoi pas. Avec moi pour parler cinéma, Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour Olivier, bonjour Sylvain et bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Alexis, bonjour Alexis.
Hello tout le monde.
Voilà. Et puis donc, il a été dénoncé, Sylvain, qui réalise tout ça.
Merci. Salut.
Voilà, Olivier, votre serviteur, pour arpenter les salles du coin. Nous allons commencer par un film projeté au Vivare, à Privas, Mémoire d'un escargot, c'est le cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy 2024. C'est une animation en volume dont nous allons entendre un petit échantillon.
Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu.
Alouette.
Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi.
Alouette.
Mais je me souviens de tout.
Il était beau.
Alouette, chantez Alouette. Bête lièvre, bête lièvre.
Mon frère jumeau. On avait deux âmes, mais un seul cœur. Un jour, les services sociaux sont venus nous chercher. C'est la dernière fois que j'ai vu mon frère.
Cher Gracie, mes nouveaux parents sont bizarres. Je viendrai te chercher. Je traverserai le grand désert brûlant.
Pourquoi t'es déguisé en fourmi?
Je suis un escargot.
Sympa la coupe. Allons pas.
Petit doigt a été ma première véritable amie.
Gilbert!
Viens mon pote.
Grace, le moment est venu de sortir de ta coquille. La vie est une tapisserie magnifique.
Bravo.
Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant.
Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott. Eh bien, c'est Cathy qui va sortir de sa coquille pour nous en parler. Tout doucement.
Bien vu. Alors, ceci est bien un film d'animation. Mais ceci n'est pas un film pour le jeune public.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en première.
On peut commencer déjà par dire ça, voilà, parce que effectivement, c'est le mode d'expression du réalisateur Adam Elliott qui avait réalisé en 2009 Marie et Max. Mary and Max, un peu à l'instar d'un escargot qui n'est pas très rapide, on peut faire un parallèle avec aussi le travail de ce réalisateur qui a mis beaucoup de temps pour travailler sur ce film, Mémoire d'un escargot, et plus de 8 ans en fait en soi, ouais. Mais effectivement c'est quelqu'un qui travaille, qui met du temps pour travailler. Donc qu'est-ce que raconte Mémoire d'un escargot? C'est l'histoire de Grace, donc qui à la mort de son père, elle sa vie vole un peu en éclats. Elle va faire un peu en retour une forme d'introspection sur elle et sur ce que a été sa vie. Elle a été arrachée à son frère jumeau Gilbert. Elle a atterri dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie, parce que bon, entre parenthèses, le réal est australien. Et suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s'enfonce dans le désespoir jusqu'à sa rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille.
Des lunettes avec des belles montures rouges comme ça.
Exactement. Et très, très fripée, par contre.
Oui, oui.
Parce qu'elle est octogénaire. Donc voilà, c'est un peu normal. Bon, alors vraiment, présenté comme ça, ça peut paraître... le film a... comment dire? Le film assume complètement son côté pathos. C'est vrai que y a beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse. Il y a des décors plutôt gris, qui sont un peu comme ça de visu plombant. Mais en réalité, il y a beaucoup d'humour. Et malgré tout, on se rend compte que le film passe et il fait 1h30. Hein. Mais il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de rejet du film en se disant bon quand même ça me raconte une histoire qui est vraiment pas drôle parce que la vie c'est ça aussi, il y a des moments qui sont difficiles et cette femme là elle est plutôt solitaire, elle est plutôt invisible, elle va raconter justement sa vie à un escargot qui passe, elle est collectionneuse d'escargots mais elle va raconter sa vie un escargot qui passe et qui, clairement, vu sa lenteur, ne peut pas se barrer très vite pour éviter d'entendre tout ça. D'accord, donc, va être obligé aussi d'être là. Et puis, elle a son œil sur lui et elle raconte, elle défile un peu toute sa vie. Donc, il y a beaucoup de grâce, comme dans Grâce. Et c'est un film que le public 15-25, parce que c'est le coup de cœur de ce public-là, comité 15-25 au niveau national du mois de janvier. Et c'est vrai que c'est totalement atypique. C'est forcément une filmographie ou une forme de cinéma comme ça en stop motion, et de par ce que ça raconte, qui est un vrai choix éditorial de la part d'une salle de cinéma que de le diffuser, ça c'est clair. Et c'est très bien d'avoir des propositions un peu différentes.
C'est du cinéma 15-25 pour l'AFCAE, c'est ça ?
Oui, c'est le comité 15-25 de l'Association française des cinémas d'art et essai qui se réunit tous les mois et qui met en avant un film tous les mois aussi, dont celui-là a été choisi. Ouais. Mais bien sûr, c'est à voir avec les adultes. C'est un film bien adulte, sûr, oui. Par dire.
Durant les rencontres des cinémas d'Europe, on a eu beaucoup à faire au cinéma d'animation et aux gens qui travaillent là-dedans. Et c'est vrai que c'est bien de mettre en avant, et de mettre en avant indépendamment du public, du jeune public, etc.
Ouais.
Vraiment, donc c'est à voir. Au Vivarais, on parle de choix éditorial. C'est visible au Vivarais de Priva, par exemple, ce soir à 21h. Toute autre ambiance avec R de je sais plus qui, mais Alexis va nous dire.
Spike Jones,
c'est ça. Et alors, je tiens à souligner que si ce film est projeté donc au navire ce soir à 18h30, mais aussi lundi 17 et mardi 18, c'est à l'initiative des étudiants et des étudiantes de l'IFSI, c'est-à-dire l'Institut de formation en soins infirmiers d'Aubenas, qui nous font une sorte de festival au long cours avec des films qui sont en rapport avec la science et éventuellement donc la médecine, le handicap, etc. Donc après Elephant Man, qui est passé le mois dernier, je crois, R, dont nous allons encore une fois nous donner un petit avant-goût.
Monsieur Théodore Tumbley, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Allez-y.
Êtes-vous sociable ou solitaire ?
Ça fait un moment que j'ai pas été sociable.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
Voilà, je suis là.
Voilà, elle est là, c'est Heure, et non pas Air. C'est pas Nike Air, c'est Heure. Dans ce film, Théodore Tumbley installe un nouveau système d'exploitation sur son ordinateur qui comprend une intelligence artificielle très accorte, très agréable. Tu voilà, et c'est Alexis qui nous en dit un peu plus parce que je n'ai jamais vu ce film.
Alors je confirme, hein, très agréable avec la voix de Scarlett Johansson. Ouais. Donc absolument à voir en VO, hein, je précise quand même. Alors je voulais parler de ce film parce que à l'époque, moi j'avais 18 ans quand je l'ai vu. Et en fait, je me suis rendu compte de ce film-là, c'est qu'il aurait plus d'impact aujourd'hui,
ouais,
qu'il y a 10 ans.
On n'y croyait pas il y a 10 ans.
Non, voilà, c'est ouais. ça. On n'y croyait pas. Donc, il avait déjà un train d'avance. Mmh. Et ça pourrait être presque un épisode de Black Mirror, alors d'aujourd'hui, en fait, de la série Netflix, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait on s'attarde donc sur un personnage joué par Joaquin Phoenix qui va tomber amoureuse d'un système d'exploitation ce qui va nous poser question, c'est déjà la définition de l'amour. L'amour, est-ce qu'on peut tomber amoureux que du physique? A priori non. On peut tomber amoureux de ce qu'est la personne, de son âme, etc. Et là, on peut tomber amoureux d'un robot, d'une machine. Quelque part, moi, je pars du principe où c'est presque un réconfort. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais un parallèle, c'est-à-dire que le portable, quand on est triste, peut être un réconfort. On va aller s'échapper sur autre chose. On va s'échapper dans les choses de la vie, enfin, des choses de la vie qui vont nous arriver. Hop, on prend le portable et on pense à autre chose. Voilà. Et en fait, est-ce que ce parallèle-là, on pourrait pas le faire avec le film de Spike Jonze et de se dire, mais en fait, ce système d'exploitation-là, quand il tombe amoureux, c'est parce qu'il sort d'une rupture très difficile, et vu qu'il n'arrive pas à passer à autre chose pendant un an, il décide de s'acheter donc un système d'exploitation et en fait d'en faire sa femme entre guillemets, hein. Et en fait toute la question se pose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui on est presque dicté par moi je pense à ChatGPT, on pourrait presque maintenant écrire à quelqu'un, utiliser ChatGPT parce qu'on n'a pas les mots et envoyer par message. Mmh. Et en fait, c'est pas nos propres mots, c'est les mots de ChatGPT. Et en fait, c'est moi, ça me fait peur. Et voilà. Et en fait, en y pensant, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais ça ne reflète plus notre personnalité. On est vraiment en train de se transformer, en fait. C'est l'IA qui parle pour nous. Et c'est plus nous. Voilà.
Ouais, c'est plus. Enfin, c'est aussi le fait de notre relation aux autres aussi, et le fait de comment on rencontre quelqu'un, comment on tombe amoureux. Là, on va dans cette forme de facilité. On le voit bien depuis des années à se cacher derrière des profils, à utiliser les réseaux sociaux pour essayer de, enfin, ou des applis de rencontre. Et c'est comment là il va plus loin encore, je trouve, dans le film, où effectivement tu peux carrément te dire, bah oui, tu peux pourquoi pas vivre avec juste une intelligence artificielle qui va te dire les mots que tu veux entendre, qui va vivre avec toi au quotidien. Et c'est flippant parce que en fait l'amour, ça doit pas être ça, en fait. Enfin, et le besoin, enfin, aussi bien charnel que physique, que la présence de la personne, c'est quand même 100 fois mieux que de se conforter dans cette illusion de vie qu'on peut avoir à travers l'intelligence artificielle, quoi.
Ouais, ouais. Tout à fait. Et je dois dire qu'effectivement, on vient de le dire, il y a 10 ans, on se rendait pas bien compte. Il y a une raison aussi, je crois, c'est que moi, quand j'ai commencé à entendre parler d'intelligence artificielle, je me suis dit, d'un point de vue philosophique, métaphysique, ça me pose aucun problème. Le fait que Deep Blue batte Kasparov aux échecs, oui, et alors? Puisque de toute façon, l'ordinateur, il sait même pas qu'il a gagné. Donc c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on se rend compte, comme tu le disais très bien, aujourd'hui, on se rend compte que les conséquences sociales et psychologiques de l'intelligence artificielle sont préoccupantes.
Exactement.
Vraiment préoccupant.
Je pense que ce film est essentiel encore plus à l'heure d'aujourd'hui.
Il est très beau en plus. Ouais, enfin, ouais. Esthétiquement, ouais, ouais. Il est très, très, très réussi.
Ouais, ouais. Ouais, c'est magnifique.
Sans aucune transition et sans non plus de bande-annonce, notre petit quart d'heure, hein. Sinon Sylvain, il va. Petit quart d'heure jeune public avec en ce moment. Au cinéma Le Navire, la projection d'un film d'animation, La Nuit au Zoo. C'est un film d'animation que j'ai été voir et qui m'a paru intéressant, en particulier à cause de l'idée de base. Vous avez une météorite qui arrive sur la Terre et qui tombe dans un zoo, entraînant des conséquences assez dramatique. Dramatique, c'est d'ailleurs le mot, parce qu'effectivement, c'est une comédie dramatique animée. En anglais, c'est Night of the Zoopocalypse. C'est l'apocalypse au zoo à cause de l'arrivée de cette météorite. L'idée est de Cliver Barker, qui est, on ne le sait pas, mais je vous le dis, l'auteur de Hellraiser, le pacte, qui avait donné un film en 1987, bien, bien flippant. Et donc, on a affaire, mais pour les enfants, à un film d'animation d'horreur. Et qui moi, je me suis entretenu avec des tout petits, hein, vraiment, qui sortaient du film. Et je pense que si j'avais eu un appareil pour prendre du son, il m'aurait fait la chronique. Ils m'ont même allègrement divulgaché avant que la maman ne fasse taire à des petits. Ils m'ont divulgaché l'idée de, que moi je vais pas divulgacher. Alors vous avez une bonne idée de départ, une métamorphose des animaux en quelque sorte. Les animaux de départ paraissent un peu des peluches avec des parties comme ça en plastique, c'est assez lisse. Par contre, ensuite des animaux deviennent véritablement des sortes de zombies. En fait, là, je divulgage pas, c'est dès le début du film. Et alors, c'est dans une toute autre esthétique. Et là, la diversification de l'esthétique dans le film est justifiée par l'histoire. Alors, justement, peut-être que c'est peut-être un peu la limite du film, c'est que à partir de cette bonne idée, on n'a pas forcément une intrigue très très fouillée, très très fabriquée. Ça m'a fait penser, c'est la semaine dernière, je crois que Alexis parlait de Conclave.
Il y a 2-3 semaines.
Il y a 2-3 semaines, il y a plus longtemps. J'ai été voir, parce qu'on en parlera la semaine prochaine, parce qu'il passe à TUH le 14, vendredi 14. C'est un peu le contraire de Conclave, où l'intrigue est formidable, tu l'avais souligné, on a des rebondissements, et ça débouche sur une idée qui est peut-être un peu pauvre et dont on dira rien. Toujours dans le cinéma jeune public, Alexis, tu es allé voir Paddington au Pérou, une visite à la maison de retraite des ours, si j'ai bien compris, au Pérou. C'est techniquement assez, j'ai pas vu, hein, j'ai vu la bande annonce, techniquement c'est assez époustouflant parce qu'on a une superposition de films et d'animations.
Oui. C'est ça. On a une superposition. Du coup, ce qui fait que Paddington est très beau à l'écran, on voit tous les détails. Mais de toute façon, le film d'animation est en train d'évoluer et il y a beaucoup de techniques différentes qui apparaissent. Ce qui fait que il y a beaucoup de studios qui essayent différentes choses et on voit ce qui était différent avant. On avait beaucoup de 2D classiques. Là, on va avoir plein de différents systèmes et ça nous propose plein de propositions différentes. Ce que je peux retenir, en tout cas, de Paddington au Pérou, donc c'est Paddington qui revient à ses origines, c'est-à-dire qu'il correspond pendant les deux premiers films avec Tante Lucie. Et là, on va plutôt retracer son histoire d'origine, c'est la conclusion, entre guillemets, des deux premiers. Ouais, je dirais que après les deux premiers excellents films, qui étaient réalisés par Paul King, il y a eu un changement de réalisation. Qui s'appelle, j'ai perdu son prénom, ça va me revenir, et en fait donc changement de réalisation, et c'était un petit peu la peur des fans de Paddington, c'était qu'on retrouve pas cette patte un petit peu à l'anglaise de la comédie familiale, parce que c'est ce qui a fait le succès des Paddington à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a cette comédie rafraîchissante avec beaucoup de légèreté et c'est ce qui a touché le public des deux premiers, et sur le troisième on avait peur que ce soit plus un film d'aventure que de comédie, hein. Et donc pour l'avoir vu, moi j'ai trouvé que le film avait beaucoup de points positifs, parce qu'en fait ça se passe donc forcément en Amazonie et en fait c'est filmé vraiment là-bas, c'est-à-dire que les décors sont filmés là-bas. On a eu donc des décors aussi en studio recréés au Royaume-Uni, Et donc, la volonté du réalisateur, c'était vraiment de dépayser le spectateur. Et jusqu'à voilà, à aller filmer donc des décors réels. Par contre, on a aussi donc des gags dans tout le long du film, mais c'est des films qui, c'est des gags qui marchent un petit peu moins parce que c'est des gags frontales et verbales. Ce qui, dans les Paddington, sont plutôt des les deux premiers, c'est plutôt Paddington qui fait des qui se fait mal, qui fait des petites âneries sans le faire exprès, et donc en fait c'est drôle, c'est plus du comique. Du comique de gestes.
Ceci dit, je me permets de t'interrompre une seconde parce que quand j'ai été voir La Nuit aux Eaux, j'étais surpris d'entendre les gamins rire à des plaisanteries fines que je pensais avoir été mises dans le film pour les parents. Et en fait, pas du tout. Les gamins se bidonnaient bien, ouais. Donc, peut-être.
Alors, pour là avoir l'expression des spectateurs, j'ai eu très peu de rire dans la salle, alors que les deux premiers, tout le monde était esclaffé de joie, en fait, de rire, de joie, voilà. Et là, en fait, on l'a plus tourné sur un film d'aventure que de comédie. Et donc, on se concentre sur le personnage de Paddington, de ses origines, mais on se concentre très peu sur les personnages secondaires, donc. Eux qui avaient beaucoup de place dans les deux premiers, ils passent à un second plan et en fait on s'arrête pas aux personnages, c'est-à-dire qu'on les survole. Ils ont un intérêt on va dire, ils ont un intérêt plus vers la fin que vers le début et c'est très court. Et en plus de ça, on a donc, alors je dirais pas les méchants parce que sinon on spoil tout le film, hein, clairement, mais on a quand même un Antonio Banderas qui est dans le film et qui lui va un petit peu dynamiter le film. Et puis on a une Olivia Colman qui est dans ce film-là et qui va être toute resplendissante et qui va emmener sa fraîcheur en tant que en tant que nonne, si je dis pas de bêtises, ou alors en tout cas qui va gérer cette maison de retraite, cette maison de retraite pour les ours, et qui va apporter son lot de bêtises, on va dire ça comme ça. Donc le film, je le recommande. Il a des défauts, il est moins bon que les deux premiers, mais par contre on passe quand même une belle aventure avec lui. C'est plus un film d'aventure que de comédie, et c'est ce que je vais conclure.
Bien sûr. Et là, du point de vue de la réalisation stricte, techniquement, c'est assez intéressant. C'est même magnifique. Plus qu'assez intéressant, c'est magnifique. Ouais. Tout à fait. Alors là, de nouveau, je n'ai ménagé aucune espèce de transition. De toute façon, on fait bien comme on veut. On passe à un film suédo-belge. C'est pas banal. Julie se tait. C'est, alors là aussi, thème d'actualité, s'il en est, puisque Leonardo Vandige, c'est le réalisateur, nous parle d'un entraîneur de tennis qui doit s'expliquer un petit peu sur des méthodes pas très habituelles à l'entraînement. Et donc, nous allons voir ce que ça donne déjà dans les oreilles.
Unglaublich fehl in den Mars.
C'est toujours troisième en classement, non?
Et dans quel club ça a eu lieu?
Ja, allez, Olivier!
Par was soll ich so iets mit einem Trainer oder so?
Si on a une qui doit y arriver dans le club, c'est toi.
Oui, ça.
Nix. Il faut m'aider à la nuit.
Et nous avons le devoir, en tant que club, de prendre nos responsabilités et de tout faire pour comprendre pour quelle raison un joueur ne parle pas des problèmes qu'il rencontre.
Oui, un problème de témoignage difficile à donner de la part d'une jeune joueuse de tennis. Tu as vu ce film, Cathy ?
Eh bien oui, alors tout est dans le titre, hein, Julie se tait, et tout l'enjeu du film c'est « va-t-elle parler ?» Donc tu l'as dit, Julie, une star montante du tennis, évolue dans un club prestigieux, elle consacre toute sa vie à ce sport. Lorsqu'un entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu'une enquête est ouverte, tous les jeunes du club, les joueurs pardon, du club, sont encouragés à partager leur histoire, mais Julie décide de garder le silence. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce premier film,
Ah, c'est un premier film.
C'est un premier film et qui est bilingue d'ailleurs. Enfin, donc c'est belge, mais on a aussi. Donc, je suis très nulle, c'est flamand wallon, voilà. En tout cas, c'est un double.
C'est flamand et français.
C'est en français et en flamand. C'est produit par les frères Dardenne. Aussi et voilà ce qui est intéressant dans ce film qui a après une facture plutôt classique dans la mise en scène on va dire il n'y a, a pas de, de choses particulières enfin il y a des couleurs plutôt qui sont crème belge avec un grain pellicule qu'on a voilà, qui est assumé c'est surtout la façon dont c'est traité parce que justement on a plein de films qui dénoncent. Ouais. Et là, c'est un peu le contre-pied, c'est quand même, parce que, cette, parce que Julie ne dénonce pas, en fait. Julie se tait, c'est Julie ne dénonce pas. C'est
un MeToo taiseux.
Voilà, c'est un MeToo taiseux, donc c'est toute l'originalité du film et l'intérêt du film, parce que si on prend des... bon, il y a eu plein de films sur les sujets, hein, sur les violences sexistes et sexuelles ou sur du harcèlement moral, c'est très très à la mode, on le retrouve dans l'univers du cinéma, parce que c'est une réalité aussi. Mais là, voilà, là, ce que je dirais par rapport à ce, par rapport à ce film, c'est que... on est dans cette dénonciation sans être dénonciation. Enfin voilà, c'est ce jeu-là. Si on prend le film de...
C'est assez réaliste
de...
finalement, parce que c'est un peu ça qui se passe, cette difficulté.
Bah, c'est cette omerta qu'il peut y avoir dans le milieu sportif notamment, parce que on a, enfin je crois que dans le milieu du tennis, hein, y a des jeunes femmes qui se sont exprimées...
Patinage
artistique, mais bon, on avait le film de Charlène Favier qui était slalom, là, qui est de sa propre expérience d'ailleurs aussi. Bon, voilà, il y a vraiment plein de films, mais là, l'intérêt, c'est ce contre-pied et c'est cet enjeu, est-ce que Julie va parler ? Et comment elle va le faire ? Et petit à petit, le film s'enfonce dans une forme de pression, évidemment, de la part des autres. C'est elle sait pourquoi elle ne dit pas, qu'est-ce que ça cache derrière. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de dire sur le film. C'est intéressant d'aller découvrir dans ce sens-là.
L'autre côté du décor, d'une certaine manière, presque.
Oui.
Non pas le compté, je témoigne, mais justement, je témoigne pas, et c'est en négatif que le problème apparaît. Quoi.
Exactement.
Ouais. Et ben, c'est un peu ce qui se passe. Alors, on passe pour finir, à notre escale patrimoine, et notre escale patrimoine avec la pivoleuse de Robert Guédiguian. C'est moi qui me permets cette petite plaisanterie. J'ai été voir le dernier film, le 24e film de Robert Guédiguian, La pivoleuse, qui est un très très beau film avec une photographie on est à Marseille véritablement, on est à l'Estac, une musique je vais le dire également très très importante interprétée par Franck Bralet qui est un Schubertien vraiment de première grandeur, donc c'est vraiment très très chouette. Je vous conseille d'aller entendre plus exactement la bande originale du film, sur une musique originale d'ailleurs. Alors, Robert Guédiguian, on sait qu'il avait d'abord filmé La Révolution comme si elle allait aller de soi. Ensuite, il a filmé La Révolution comme si elle avait été de soi. Et maintenant, il filme La Révolution comme pour ce qu'elle est, à savoir une utopie. Et depuis au moins, je suis... peut-être pas assez précisément, mais depuis au moins Gloria Mundi, Sic Transit, Gloria Mundi, Ainsi passe la gloire du monde, Gloria Mundi, donc de Robert Guédiguian, on avait déjà cette idée qu'il fallait faire avec les malheurs du capitalisme, etc. Bon, là, nous y sommes avec peut-être une petite confusion entre le moral et le politique chez Guédiguian, mais c'est pas grave. Moi, ce sur quoi j'avais envie d'insister, c'est la proximité entre ce film et ce qui, entre autres, l'inspire, à savoir l'opéra semi-seria à demi-sérieux de Rossini, du même titre, la pivoleuse. Et c'est un petit peu, moi j'ai eu parfois un peu cette impression que ce film pouvait devenir comme une espèce d'opéra semi-seria, parce que l'importance de la musique, bien sûr, mais aussi des sentiments. Les personnages m'ont fait l'effet de personnages un peu d'opéra, un peu, pas caricaturaux, mais très marqués dans leur rôle, avec beaucoup de pathos, mais au sens, je dirais presque positif. Faut pas l'entendre comme une critique négative de ma part. Au contraire, il y a beaucoup de sentiments qui passent, beaucoup de bienveillance. Qui peut même paraître un peu excessive. On a un peu envie de dire Robert Guédiguian, pardon, ôte le péché du monde, hein, c'est un petit peu le thème finalement. On pourrait lui reprocher ce côté un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, in fine. Mais je crois que c'est pas grave, parce que c'est quand même un grand moment d'humanisme, il me semble.
Je sais pas si c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est peut-être plus si un personnage a fait cet acte ou dit, c'est parce que derrière il a il a pas des bonnes raisons de le faire, mais il est peut-être particulièrement touché, ou il a vécu quelque chose qui fait que fragilité qui fait que il a cette attitude là parce que dans le film il y a quand même des le personnage principal on retrouve toujours les mêmes acteurs que actrices et acteurs que qu'aime particulièrement Guédiguian, qui ont été amants, maîtresses, femmes, sœurs, ils ont tout fait dans leur parcours cinématographique avec lui. Mais c'est que elle a des bonnes raisons de faire ce qu'elle fait. Il y a cette espèce d'explication de texte qui fait que bon.
Ouais. Peut-être pas tout à fait convaincante d'ailleurs, mais enfin effectivement. C'est ce que je voulais dire en parlant de bienveillance et d'humanisme. C'est un peu ça, qui est moins politique maintenant chez Guédiguian et plus moral.
Les relations entre le père et le fils aussi, qui sont conflictuelles. Mais bon, derrière, il y a aussi des raisons pour que. Mais ils ont aussi des bonnes raisons pour s'aimer.
C'est un film véritablement, je crois, à voir. On va finir, avant que Sylvain décidément ne fasse les gros yeux, avec la vraie escale patrimoine. C'est proposé au navire, avec la maison de l'image, évidemment, le jeudi 13 février à 18h15. Il y aura d'autres séances lundi 17, mardi 18. Le silence des agneaux de Jonathan Demme, faut-il le présenter? En tous les cas, on va s'en entendre un tout petit morceau.
You spook easily, Starling?
Not yet, sir.
He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine.
A killer is on the loose.
Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them.
A rookie FBI agent is on his trail.
He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop.
Le silence des agneaux, moi c'est un film, je crois que j'irai le revoir, mais je sais que je vais avoir peur. C'est un film donc de Jonathan Demme, qui nous avait aussi donné Philadelphia en 93, là c'est un film de 91. Le scénario est de Ted Tully, et c'est d'après le roman de Thomas Harris, qui est connu pour sa série Hannibal Lecter.
Oui, tout à fait.
Donc c'est la maison de l'image qui présente ça au navire.
Oui, c'est un partenariat que nous avons chaque année avec Maison de l'Image et Cinéma Le Navire, de revenir sur des grands classiques du cinéma à travers des thématiques. Donc cette année, on est particulièrement plus axé sur le film policier, polar et tout ce qui peut être autour de cette thématique-là. Effectivement, Le Silence des Agneaux, personnellement, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie cinéma. Donc je vais le revoir avec plaisir. Et comme toi, je vais flipper, ça c'est sûr.
Ah mais c'est vrai.
forcément.
Rien que la bande-annonce.
Déjà à l'époque, j'allais pas du tout voir ça et je sais plus qui m'a traîné là-bas, mais bon, effectivement, Anthony Hopkins, Judy Foster, c'était à ne pas louper. Donc quoi dire sur le film ? Oui, c'est une adaptation. En fait, il y avait un film de Michael Mann en 86 qui était sorti, Manhunter, le sixième sens, oui. Qui déjà mettait en scène ces deux personnages qu'on retrouve dans Le silence des agneaux, c'est-à-dire Hannibal Lecter et Jack Crawford. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte, en fait, il y a des meurtres, il y a un tueur en série qui s'appelle Buffalo Bill, qui œuvre et le FBI décide de se rapprocher d'un psychiatre, mais adepte du cannibalisme, qui s'appelle Hannibal Lecter, pour comprendre ce tueur en série. Et on va basculer là dans une espèce de thriller psychologique où il y a deux personnages qui se confrontent, c'est-à-dire une stagiaire. Bon, là, on a un peu de mal à comprendre pourquoi une stagiaire se retrouve avec un dossier si lourd au FBI qu'une vraie.
Mais c'est Jodie Foster.
Vraiment un combat psychologique entre ces deux personnages, donc Clarice et Hannibal. Le film. Il a reçu 5 Oscars majeurs. C'est le troisième film à avoir reçu 5 Oscars majeurs, c'est-à-dire meilleur film, meilleur réal, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure adaptation.
Ça envoie, au moment des Oscars.
Donc, il faut surtout pas le rater.
D'accord. Donc, je rappelle, jeudi 13 février, et puis lundi 17 et mardi 18, Le silence des agneaux, interdit au moins de 16 ans, je précise quand même. Je vous remercie, Cathy, Alexis et Sylvain, d'avoir rendu possible ce nouveau numéro de Cinémascope. Nous nous retrouvons, si tout se passe bien, vendredi prochain, le 14 février. En attendant, bon film. Ciao, ciao.